Je ne sais pas ce que je veux faire.
Je sais pas ce que je veux faire.
Je sais pas quoi dire.
Je veux être tatoueuse.
Je sais pas ce que je veux faire.
Juste le ton.
À la découverte de métiers. Facteur.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes sur RVM, Radio Valois-Mulhouse 93.7, pour l'émission de découverte des métiers, animée par les 3e du collège Jean de la Fontaine. Au micro, Elodie. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Thomas.
Bonjour.
Marc.
Bonjour.
Alix.
Bonjour.
Sébastien.
Bonjour.
Et Laura.
Bonjour.
Et nous accueillons Madame Marie-France Lecointre.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, pouvez-vous en quelques mots nous décrire votre métier ?
Mon métier, je reçois des enfants, des adultes qui ont plein de questions dans la tête. Les questions envahissent leur tête, donc ils viennent la poser à quelqu'un pour démêler un peu la pelote de laine que ça fait dans leur tête.
Très bien, Thomas, veux-tu commencer ?
Qu'aimez-vous faire dans ce métier ?
J'aime aider les gens. C'est une grosse prétention, mais j'aime aider les gens pour qu'ils vivent mieux.
Pourquoi avez-vous eu cette idée de faire ce métier ?
C'est une rencontre, en fait. Je faisais des études d'espagnol pour être professeur d'espagnol. J'ai fait une licence d'espagnol dans laquelle je faisais de la psycholinguistique, c'est-à-dire en quoi le langage et comment on parle est lié à ce qui se passe dans notre tête. Si on parle vite, on parle doucement, etc. C'était ça, la psycholinguistique. Et à l'occasion de la psycholinguistique, j'ai découvert donc ce qu'était la psychologie. Je me suis dit que ces études-là me plairaient bien. Donc, j'ai refait des études de psychologie et je n'ai jamais été prof d'espagnol.
Quelle étude faut-il faire ?
Pour être psychologue en France, il faut faire un master, donc 5 ans après le bac, un master en psychologie. Mais en psychologie, il y a plein de métiers différents.
Entre le psychologique et le psychiatre, vous faites quoi comme différence ?
Quand j'ai commencé mes études, je crois que j'étais assez perdue entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Et puis après, on apprend très vite. D'abord que ce n'est pas le même diplôme en France. Donc il faut savoir qu'en France, tous les métiers sont, comment dire, mis en catégorie avec des diplômes. Donc ça, c'est la première chose. On sait que ce n'est pas le même diplôme. Et puis après, on apprend que les psychiatres, ce sont des médecins. Donc ils font d'abord des études de médecine en étudiant tout le corps. Et ils font une spécialité pour étudier la maladie mentale. Alors que les psychologues font des études de psychologie jusqu'au master. Et on étudie comment fonctionne l'esprit humain. Donc, la maladie, bien sûr. Moi, je suis psychologue clinicienne, donc je vais plus vers la maladie. Mais on peut être psychologue sans étudier la maladie, juste pour savoir comment on réfléchit, comment on pense, comment on rêve.
Un psychologue est-il un médecin ?
Non, pas du tout. Un psychologue en France n'est pas un médecin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre des psychologues qui gère la profession. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de remboursement des consultations par la sécurité sociale. Ce n'est pas le cas en Allemagne, par exemple.
Pourquoi ?
Disons que l'ordre des médecins est un ordre qui protège la profession des médecins et n'a pas très envie qu'on marche sur ses plates-bandes.
Quelle différence entre un psychologue et un psychiatre ?
Le psychiatre, donc, il a fait des études de médecine. Donc, il va aller s'occuper des gens qu'on appelle dans notre société tout de suite fous. Ceux qui peuvent difficilement vivre en société tout seuls, qui vont être suivis dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des consultations psychiatriques. Il y a un CMP à Crépy-en-Valois, un centre médico-psychologique qui reçoit des adultes comme ça, qui peuvent à la fois vivre chez eux, mais qui ont besoin d'être suivis parce qu'ils ont vraiment trop de soucis dans leur tête. Et le psychiatre, il a le droit, puisqu'il est médecin, de donner des médicaments. Pour soigner, pour apaiser, pour soigner les troubles du sommeil quand ils sont massifs, les angoisses, les délires, etc. Moi, je ne peux pas signer d'ordonnance et donner des médicaments. Si la personne que je reçois, je trouve qu'elle souffre trop, que moi, je ne peux rien faire avec mes compétences, je vais l'adresser à un psychiatre pour que ce psychiatre voit si avec des médicaments, elle ne pourrait pas aller un petit peu mieux et revenir me voir.
J'ai des problèmes, je sais pas à qui en parler.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis que vous l'exercez ?
Alors, c'est un métier récent au regard de l'humain. Vous avez peut-être entendu parler de Freud, fin du 19e, début 20e, peut-être pas du tout. Bon, en fait, c'est lui, en fait, hein, qui va penser plein de choses autour de la psychologie, mais il n'est pas tout seul, il y a plein d'autres gens. C'est un métier qui s'est développé parce que petit à petit, on a pris conscience que ce qui se passait dans la tête des gens, au niveau de l'esprit, ça avait une influence sur leur façon de vivre, leur bien-être et aussi sur leur maladie. Mais ça, je crois que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir vous aussi. Si vous êtes triste parce qu'il vous arrive quelque chose, vous avez moins d'entrain à travailler. Or pourtant, le devoir de maths, il est toujours le même. N'empêche que vous le ferez beaucoup plus difficilement si vous êtes triste que si vous êtes gai. Donc ça veut bien dire que vos émotions, ce que vous ressentez, ça influe sur ce qui se passe dans votre quotidien.
Quels sont les problèmes des jeunes que vous rencontrez ?
Alors, donc moi, je ne travaille pas en libéral, c'est-à-dire que je n'ai pas un cabinet où je consulte. Je travaille dans une institution. En France, pour accueillir tous les enfants de 0 à 18 ans qui ont des soucis, il y a différentes institutions. Il y a des institutions pour les enfants qui ont du mal à penser. Il y a des institutions pour les enfants qui ont tellement de douleurs dans leur corps parce qu'il y a eu des soucis à la naissance, qu'ils vont avoir du mal et à penser et à marcher, etc. Et il y a des institutions qui reçoivent des enfants qu'on dit très, très, très agités. Moi, je travaille dans cette institution-là qu'on appelle un ITEP, Institut Thérapeutique, Éducatif et Psychologique. Donc, on y reçoit des enfants de 3 à 18 ans qui ont des troubles du comportement, qui bougent beaucoup, 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 beaucoup en classe, qui sont souvent très violents, qui sont souvent insultants avec les professeurs, qui sont souvent agressifs avec leurs camarades. Et pourtant, ce sont des enfants qui ont toutes les capacités pour apprendre à lire, écrire, compter, enfin tout ce que vous savez faire. Mais ces soucis de comportement les empêchent d'apprendre à lire, compter, écrire ou poursuivre leurs études. Donc, ils arrivent dans nos institutions parce que la famille n'en peut plus de vivre tous les jours avec cet enfant qu'ils aiment beaucoup peut-être, mais qui est insupportable. Et l'école aussi n'en peut plus parce que ces enfants remuent trop pour les classes où vous êtes nombreux, où c'est très rythmé, il faut se déplacer, etc. Donc, ils viennent dans notre institution et je m'occupe de ces enfants-là.
Ça va ou ça va pas ?
Pour les jeunes qui nous écoutent, vous leur conseillerez ce métier ou pas du tout ?
Je conseillerais ce métier parce que je l'aime bien. Alors oui, s'ils ont envie de le faire, bien sûr. Je crois qu'il faut avoir envie. Hein.
Donc la routine n'égale pas à l'ennui.
Il n'y a pas du tout de routine dans le métier de psychologue parce que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un de nouveau. On a peut-être tous deux pieds, une tête, deux bras, des yeux, etc. Mais chacun est différent. Donc à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, un enfant, un papa, une maman, un frère, une sœur, c'est une nouvelle rencontre. Donc on ne peut pas s'ennuyer. C'est un métier difficile parce que on entend la souffrance des gens. C'est-à-dire que les gens, ils viennent dire, je vous ai dit au début, qu'ils venaient dire tout ce qu'il y avait dans leur tête qui leur faisait mal, qui font des grosses pelotes, mais très mélangées, ils sont que mal. Donc il faut pouvoir entendre tout ça, quoi. À longueur de journée, on entend des gens qui ne vont pas bien quand même. Et on n'a pas de médicaments pour les soigner. Hein. Juste parler avec eux pour essayer qu'eux-mêmes comprennent pourquoi ils vont mal, qu'ils puissent mettre des mots, parce que souvent ils arrivent en disant « je vais pas bien », puis c'est tout. Hein. Ce « je vais pas bien », c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie récemment, il y a longtemps. Qu'est-ce que ça donne le « je vais pas bien » ? Est-ce que je mange plus ? Est-ce que je dors plus ? Est-ce que je joue plus ? Ou est-ce que je suis agressif pour les enfants hein, dont je m'occupe ? Mais c'est aussi des relations, ça c'est très enrichissant, on s'ennuie pas.
Avez-vous des contraintes ?
Alors j'ai des contraintes de confidentialité, ce qu'on appelle la confidentialité professionnelle, c'est-à-dire je ne dois pas parler des gens que je rencontre, ni les nommer, ni raconter leurs histoires. J'ai des contraintes dans le métier que j'exerce à l'ITEP, parce que cette institution, il faut des sous pour la faire marcher. Et pour faire marcher cette institution, ben, ça va être les sous des impôts de vos parents. qui remonte à l'État. Et puis l'État, il redistribue tout ça dans plein d'autres choses, et notamment pour que la société s'occupe des jeunes en difficulté. Donc si l'État donne des sous, il contrôle, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous payer tous comme ça pour nos beaux yeux. Il vient vérifier qu'on fait bien notre travail. Et donc quand il vérifie qu'on fait bien notre travail, il nous demande des comptes rendus, c'est-à-dire des écrits réguliers sur ces personnes qu'on suit. Ça, c'est une contrainte importante parce que ça prend beaucoup de temps.
Avez-vous des contraintes d'horaire ?
Alors, si je souhaite que les gens qui viennent me voir, hein, ils aient envie de revenir de me voir, et notamment les enfants, j'ai intérêt à être à l'heure. Parce qu'un petit de 5 ans, si on lui dit « tu vas voir Marie-France » et qu'il ouvre la porte et que je ne suis pas là, je suis sûre de ne pas le revoir. Les ados de votre âge aussi, c'est des gens qui ne savent pas attendre. Il y a des parents qui ne savent pas attendre du tout. Donc oui, être à l'heure, c'est extrêmement important. Dans les contraintes horaires aussi pour faire ce métier, il y a un rythme des entretiens, c'est-à-dire des discussions qu'on a avec les gens, il y a un certain rythme. Il ne faut pas que ça dépasse une demi-heure, trois quarts d'heure. Sinon après, ça ne marche pas. J'ai d'autres contraintes horaires puisque je travaille dans une institution, je travaille en équipe avec des éducateurs, une assistante sociale, avec des enseignants. Les réunions d'équipe ont lieu deux fois par semaine. Je ne peux pas échapper à ça, puisque ça fait partie de mon travail de travailler avec eux. Dans les contraintes horaires, il y a des ESS qui ont lieu dans votre collège. D'ailleurs, je vais dans votre collège rencontrer pour certains enfants qui sont en difficulté l'équipe enseignante. Donc ça, c'est imposé. Des fois, ça tombe sur une consultation, donc je suis obligée d'annuler la consultation pour aller à l'ESS. Sinon, après, j'organise mon travail comme je veux.
Vous vous sentez valorisée ou pas par rapport au travail que vous faites ou pas du tout ?
Est-ce que je me sens valorisée ? Je ne sais pas si j'ai besoin d'être valorisée, parce que j'ai la prétention de bien faire mon métier. Ça me valorise, je m'auto-valorise, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Après, dans notre société actuelle, je dirais que non, je ne suis pas valorisée, puisqu'on est dans une société où ce qui est important, c'est avoir beaucoup d'argent. Or, le métier de psychologue, ce n'est pas un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Que par ailleurs, dans notre société, on est plus sur des métiers où on fabrique des choses, des objets pour les avoir chez soi, etc. Moi, je fabrique rien du tout. Voilà.
Avez-vous parfois peur ou parfois des angoisses au début de votre consultation ?
Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive de me dire comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais faire. Rarement les premières fois, c'est quand le travail avance et qu'on sent que l'enfant ou les adultes sont à un moment décisif de leur parcours dans leur tête. On se dit là, il faut que j'arrive à dire ce qui va les aider, tout en sachant en même temps que c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. C'est comme quand on marche sur une route. La route, elle est là, les panneaux indicateurs, ils sont là, mais la personne qui marche, c'est elle qui marche. Hein. Donc, quand elle veut s'arrêter, elle s'arrête. En tant que psychologue, j'accompagne les gens, mais je peux ni les tirer, ni les pousser, ni les obliger à marcher.
Dans ce métier, c'est quoi que vous préférez ? C'est le contact avec d'autres personnes ou c'est autre chose ?
Il y a deux choses que j'aime bien dans ce métier. C'est rencontrer les gens, donc les contacts avec les gens, et le travail en équipe. Le travail avec les éducateurs, les assistantes sociales, les enseignants. Parce que les enfants dont je m'occupe sont vraiment des enfants, je vous assure, ils sont vraiment insupportables pour la société. Et pourtant, ce sont des enfants sympathiques quand on les connaît bien. Ils ont plein de richesses, ils ont plein d'envie, ils ont plein d'idées pour faire beaucoup de choses. Donc il faut arriver à ce que les gens qui travaillent avec eux les redécouvrent autrement qu'insupportables. Donc, travailler en équipe, pour moi, c'est très, très important.
Au niveau des qualités spécifiques qu'il faut, c'est surtout la patience. Il faut que vous ayez du temps à leur consacrer, surtout.
Alors, il faut du temps, oui. De la patience. Les éducateurs ont besoin de patience. Les éducateurs vont faire les activités avec les enfants. Et ils vont aussi accompagner les parents. Moi, je suis dans un autre domaine. Je n'ai pas vraiment besoin de patience. Par contre, il faut savoir beaucoup observer avec ses yeux, mais observer aussi avec ses oreilles, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut écouter d'une façon très, très particulière. Il faut une écoute qui permet à l'enfant de se sentir tranquille. Ça, c'est pas facile, mais c'est une qualité, ça s'apprend. Je pense que j'écoute mieux maintenant que j'écoutais au début quand j'ai commencé mon métier. Même dans l'observation, avec mes yeux. Je suis sûre que je vois plus de choses maintenant que j'en voyais au tout début. Et puis, l'autre qualité qu'il faut avoir, à mon sens, il faut lire énormément et se former tout le temps. Parce que l'esprit humain, c'est très 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 compliqué. On n'a jamais fait le tour, personne n'a jamais fait le tour. Donc il faut avoir envie de lire, de rechercher, de lire des revues, de relire des livres professionnels, d'aller à des colloques, enfin voilà. Ça c'est important, très important.
Je pète les plombs.
Avez-vous revu des ados que vous avez reçus une fois adultes ?
Oui, tout à fait.
Que sont-ils devenus ?
Alors, ceux que je revois en général, ce sont ceux qui vont bien. Donc, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire leur vie, soit leur vie de famille et leur vie professionnelle. Et ce passage dans l'enfance qui a été difficile pour eux, parce que c'est parfois difficile pour eux aussi, ils en sont sortis et c'est ce qu'ils viennent dire quand ils reviennent me voir. Ils viennent dire « je m'en suis sortie ». Et ils viennent aussi souvent essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là de leur vie. Parce qu'ils savent qu'ils sont venus dans l'institution, ils savent que c'était pas très drôle d'être dans cette institution, mais ils ne se souviennent plus pourquoi ils sont venus. Voilà.
Avant une consultation ou une nouvelle journée, des fois vous avez peur, vous êtes angoissé ou des trucs comme ça, ou pas du tout ?
Alors, avant une journée... avant une consultation. Oui, il y a des fois, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles à vivre, donc qui me réveillent la nuit, hein, bien sûr. Mais quand on est psychologue, moi je suis psychologue clinicienne, hein, je vous ai dit qu'il y avait plein de métiers en tant que psychologue. Moi je suis psychologue clinicienne, donc c'est extrêmement important que je comprenne ce qui se passe moi aussi dans ma tête pour recevoir les enfants et les parents. Si je me fais du souci pour un enfant, si je suis trop angoissée, il faut aussi que je comprenne pourquoi ça m'arrive à moi et avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'il faut que je m'analyse aussi. Sinon, je ne pourrais pas vraiment l'accompagner.
Qu'est-ce que ça veut dire, psychologue clinicienne ?
Alors, la clinique, ça veut dire qu'on est au pied du patient. Ça, c'est la définition classique. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps, il y a très longtemps, où en fait les médecins ne venaient quasiment pas voir le patient, ne le regardent pas. Je ne sais pas si vous aviez vu le malade imaginaire. À cette époque-là, en fait, les médecins, ils avaient leurs idées sur leur maladie, ils jetaient un petit coup d'œil au patient, ils faisaient trois trucs et puis ils disaient « voilà, il a telle maladie ». Et puis au 19e siècle, ça a changé. Les médecins se sont dit « il faut peut-être qu'on regarde d'un peu plus près non seulement la maladie, mais le patient. Donc il faut aller au pied de son lit, donc dans la clinique. » Donc psychologue clinicienne, ça veut dire que moi, je travaille essentiellement en observant et en écoutant les gens directement. Voilà. Et non pas comme on peut le faire ailleurs. Il y en a qui sont... psychologue du travail, par exemple. Il y en a qui sont psychosociologues. Ce sont d'autres métiers, tout cela. Il y en a qui sont psychologues cognitivistes. Ils vont faire de la recherche, ils vont faire des tests, essentiellement. Moi, je reçois les gens, je fais aussi des tests, hein, mais l'essentiel du travail, c'est pas le testing. C'est d'écouter la parole de l'autre et d'essayer de l'aider à comprendre ce qui se passe. C'est ça, la clinique, être près de l'autre.
Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour nos recherches de métier ?
Des conseils pour vos recherches de métier ? Je ne suis pas très qualifiée là-dedans, moi. Vous voulez une méthode pour rechercher des métiers ou des nouveaux métiers ?
Plus des méthodes, je pense.
Parce que des nouveaux métiers, je pourrais vous dire, si le métier d'éducateur est un métier qui vous intéresse, je peux demander à des éducateurs avec qui je travaille de venir ici, si c'est un métier que vous voulez découvrir. Après, si c'est au niveau d'une méthode... Je pense que vous connaissez déjà le COP, le conseiller d'orientation psychologue, qui est dans votre établissement. Il est là pour ça, hein, essentiellement, pour vous faire faire ces démarches. Donc là, elles sont très théoriques. Je disais tout à l'heure pourquoi vous êtes venu à RVM et pourquoi vous n'avez pas pris votre papier et votre crayon. Mais je trouve que s'il y a des métiers que vous voyez dans la rue, enfin avec des plaques ou etc., rien ne vous empêche d'aller demander directement aux gens qu'est-ce que vous faites, ce métier-là me semble intéressant. Et est-ce que vous accepteriez de répondre à mes questions ? C'est très spontané. Il y a des architectes, par exemple, à Crépy. Donc, je ne sais pas si vous avez osé aller toquer à la porte de l'architecte pour lui dire... Rien qu'en se promenant quoi, dans la ville, on voit des métiers. Il y a un notaire, pas loin. Si vous regardez autour de vous, il y a plein de métiers. Il y a ceux que vous avez dans la tête et puis il y a tous ceux qui existent en regardant autour de vous. Donc, osez aller frapper chez eux et puis... demandez s'ils veulent bien répondre à votre question, soit en venant ici, soit avec vos questionnaires. Si vous faites venir des gens comme ça ici, c'est parce que vous avez envie de rencontrer. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement envie de ce que va vous dire le COP, hein, ou lycée. Pour rencontrer les gens, il faut aller vers eux.
Pour moi, psychologue, c'est une personne qui nous aide à être mieux.
Bon, pour moi, psychologue, c'est parler avec les gens pour aller mieux après.
Psychologue, c'est égal à aide, en gros.
C'est pour se sentir mieux dans sa peau.
Pour aider les gens.
Pour aider les gens à mieux vivre qu'avant avec leurs problèmes.
Et je crois qu'ils ont tout dit. Alors, mieux vivre avant avec ses problèmes. Ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est vrai que c'est tout à fait ça. Il faut avoir envie d'aider les gens. L'outil essentiel que j'ai, c'est parler. Parler, ça fait du bien. Donc, je crois que vous avez tout compris, là. Hein?
Très bien. Le temps de cette émission est écoulé. Nous remercions Madame Marie-France Lecointre de nous avoir consacré cette émission.
Merci à vous.
Merci.
Cette émission est le fruit d'un partenariat entre Agir ABCD, le collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois et RVM.
Vous pouvez écouter toutes les interviews de l'audiothèque des compteurs de métiers
sur notre antenne 93.7
ou en podcast sur le site www.radio-valois-mulcien.fr.